RMC.
Cannavaro! Ecco Fabiana Contotti! Dentro il pallone per Girardino! Girardino la porta nera anche vicino alla bandierina! Cerca il 2 contro 1! Girardino! Dentro Del Piero! Del Piero!
Gol! Gol! Tardelli! Raddoppio! Tardelli! Uno splendido gol di Tardelli! 2-0! Tardelli ha raddoppiato!
RMC After Italy,
Jérôme Sillon.
Salut à tous, merci d'écouter l'After Italy, votre nouveau podcast RMC chaque semaine. On vous emmène à la découverte des clubs, des joueurs et des histoires du football italien. Pensez à vous abonner à la chaîne de l'After Italy pour ne rater aucun épisode et n'oubliez pas de donner une note et de mettre un commentaire. Comme chaque semaine dans l'After Italy, on accueille notre drôle de dame italienne, Johan Crochet. Salut Johan.
Salut Jérôme, bonjour à toutes et à tous.
Et notre invité aujourd'hui, les journalistes, habite à Turin, ne jure que par les passes d'Andrea Pirlo. Il travaille pour le site internet 90 minutes, c'est Elvin De Fazio. Bonjour Elvin.
Bonjour les amis.
Elvin, d'où vient cette passion pour les passes d'Andrea Pirlo?
Parce que tout simplement c'est un magicien et que le foot italien est le meilleur football qu'il existe, les amis.
Rien que ça, quel programme. Ça promet. Avec toi Elvin et avec Johan, on va tirer le premier bilan de la nouvelle ère entamée par la Juventus l'été dernier. Départ d'Allegri, arrivé sur le banc de Thiago Motta, fin de la politique des gros salaires, recrutement de joueurs à fort potentiel. Après 4 mois, quels sont les résultats? À quoi ressemble la philosophie de jeu? Quels sont les axes de progression? C'est parti pour l'After Italy.
A volte come un re senza esercito, senza trono né corona né scettro, ed una spada in prestito. A volte muovo solo il lessico, per come gli sto, ti porto dove gli sto, è un gusto acido, porto con me la pressione, la confusione.
Alors si vous écoutez l'After Italy, vous savez que Johan aime beaucoup le rap italien. Pourquoi ce choix encore, Johan, pour lancer cet After Italy spécial Juventus?
Contrairement à l'épisode avec Pierre Caloulou, j'ai pas choisi un groupe ou un duo turinois, mais j'ai choisi par rapport au titre. Le titre, c'est Alti e Bassi, des hauts et des bas. Broken Speakers, c'est dans la bande-son de Suburra, la série Netflix sur le business et business très particulier dans Rome, la capitale italienne. Et parce que ce titre, je trouvais ressembler assez bien ou résumer assez bien ce qu'on voit depuis le début de la saison du côté de la Juve, c'est-à-dire des hauts, des choses qui sont très bien faites, des choses qui sont très bien amorcées, et des bas où il y a vraiment des axes de progression majeurs dans cette équipe.
Alors justement, allons-y, parlons d'abord des résultats, parce que c'est ce qui intéresse évidemment beaucoup les supporters, et plus particulièrement encore en Italie. Est-ce que les résultats de cette nouvelle ère, après 4 mois d'air Thiago Motta, est-ce que ces résultats sont en ligne avec les objectifs qui avaient été fixés, Johan?
Ouais, on peut commencer à regarder. C'est vrai que c'est un peu basique, mais c'est évidemment un élément à prendre en compte. On parlera du jeu tout à l'heure et tout ce qui a été mis en place depuis l'arrivée de Thiago Motta. Mais si on regarde les résultats, on peut regarder la position au classement, mais même si elle ne veut pas dire grand-chose, c'est sixième en Serie A. C'est surtout ce qu'il faut regarder, c'est les écarts de points avec les concurrents. Donc la Juve a 21 points. Ils ne sont pas encore à la moyenne de 2 points par match, qui est une moyenne minimale quand on veut jouer le haut du classement. Et quand je dis le haut du classement, c'est plutôt le titre. Mm-hmm. À 4 points du leader napolitain, donc il n'y a que 4 points d'écart entre le premier et le sixième. Donc ça veut aussi dire que c'est extrêmement serré pour le moment et que en 2 matchs, tu peux absolument bouleverser le haut du classement. Cinquième attaque, meilleure défense, invaincu avec 5 victoires et 6 matchs nuls. Ça, on y reviendra avec Elvin, il y a un petit peu trop de matchs nuls. Et en Ligue des Champions, ils sont dans la zone de qualif en play-off.
11e.
Exactement. Ce qu'il faut voir aussi, c'est ce qui reste à jouer. Et il y a 2 matchs qui seront compliqués à venir. C'est Aston Villa et Manchester City. Et derrière, il y a Bruges et Benfica, où ça paraît un petit peu plus jouable ou abordable en tout cas. Donc globalement, tu es en ligne avec les objectifs. Tu es tout à fait bien placé dans les deux compétitions. Il n'y a pas de retard comptable sur ce début de saison-là, si on doit parler que des résultats. En plus, tu peux te dire que allez, il y a une ou deux prestations où t'es pas forcément bien payé, avec un ou deux points de plus. T'es dans le top 3 en Italie, t'es encore un peu mieux classé en Ligue des Champions. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est notamment en Serie A, les clubs qu'a affronté la Juve, pardon, Inter, Napoli, Lazio, Roma. Ça veut dire que dans les gros, il ne leur reste que le Milan et l'Atalanta. Donc, sur les 7 journées, les 8 journées restantes, pardon, sur les sur la phase aller, tu vas avoir des matchs un petit peu plus abordables. Donc voilà pour le premier bilan comptable qui pour moi me satisfait, même si allez, j'aurais pas craché sur un ou deux points de plus qui auraient donné un petit peu plus d'épaisseur à ce premier bilan.
Ça veut dire qu'évidemment tu n'as pas perdu, hein, puisque là on le rappelle, la Juve est l'un des deux clubs du Big Five européen vaincus en championnat avec le Bayern. Ça veut dire que tu n'as pas perdu face aux grandes d'Italie. Depuis Turin, qu'est-ce qu'on en pense, Elvin? Quel bilan comptable on tire des premiers résultats de l'ère Thiago Motta?
Bah, si je dois définir cette première partie, on va dire la saison, c'est patience. C'est sûr que les résultats ne sont pas tous excellents. Il manque de la continuité dans les résultats, mais tout le monde veut être patient parce qu'il y a un nouveau cycle qui débute. Ce n'est pas dramatique, tu es encore dans la course au Scudetto largement. En Ligue des Champions, même si tu as Aston Villa et Manchester City qui arrivent, tu as quand même de quoi espérer arriver dans le top 8 ou passer derrière par les barrages. Donc il faut de la patience et pour le moment, il y en a clairement parce que tout le monde est conscient qu'il y a un nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir.
J'ai oublié le PSG, hein, parmi les clubs invaincus dans le Big Five européen, en championnat évidemment. Alors on attendait au tournant aussi beaucoup Thiago Motta, parce qu'il nous avait régalé avec Bologne, avec cette qualification historique en Ligue des Champions la saison dernière, sur le jeu, la philosophie de jeu. De ce qu'on a vu à Lille mardi soir, on a vu une équipe plutôt prudente, plutôt pragmatique, très italienne finalement. Johan, qu'est-ce qu'on peut dire de la philosophie de jeu de la patte Thiago Motta avec la Juventus?
Alors, sur le match à Lille, je ne suis pas tout à fait d'accord, dans le sens où moi, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient vraiment de qualité avec ballon et par séquence. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait des séquences qui étaient parmi les meilleures depuis le début de la saison du côté de la Juve. Alors, ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire que ça ne doit pas s'améliorer. Et je pense que ça doit s'améliorer et ça va s'améliorer surtout. Ce que disait Elvin, la patience, c'est aussi ça. C'est de se rendre compte d'où partait la Juve. Parce que le changement qui a été amorcé cet été, c'est parce que c'est pas simplement que tu ne gagnais pas, même si Allegri voulait être jugé sur les résultats. C'est, hormis la Coupe d'Italie, c'est parce que il y avait quand même autour de cette équipe-là une forme de, je vais pas dire de colère, mais de déception sur la qualité du spectacle qui était proposé. Et notamment à domicile, même s'il avait un soutien d'une bonne partie du stade, il y avait aussi beaucoup de postes libres, beaucoup de places libres au fur et à mesure de la saison où les gens ne s'y retrouvaient pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un peu fini le temps de « il n'y a que le résultat qui compte » et peu importe si le spectacle est vilain et que tu marques un but du genou ou du coude, limite à la 90e minute, les clubs aujourd'hui ils doivent aussi proposer autre chose à leurs supporters. Et c'est vrai qu'à la Juve, on avait cette envie-là. C'était aussi ce qu'on voyait ailleurs en Europe, ailleurs en Italie. On se disait « purée, eux, ils jouent bien, ils ont des résultats. Nous, on aimerait bien aussi bien jouer et avoir des résultats. » Et Thiago Motta, le gros travail qu'il a à faire, c'est que il faut comprendre que le jeu, allez, je vais l'appeler arriéré et vraiment pas moderne des trois dernières saisons, il faut totalement le changer. Il faut totalement le changer, mais ça veut dire changer aussi la conception du football, ça veut dire changer la méthodologie de travail, la méthodologie d'entraînement. Il faut réhabituer certains joueurs, je ne parle pas des nouveaux, mais en tout cas ceux qui étaient présents, à développer un autre type de football, à s'entraîner différemment. Plus les nouveaux à intégrer, il y a quand même pas mal de nouveaux joueurs à intégrer cette saison. Des jeunes joueurs qui arrivent aussi à l'échelon supérieur. Donc tout ça fait que, avant de même de parler des préceptes avec Elvin de Thiago Motta, si on prend le contexte global, au-delà même du simple changement, du changement d'entraîneur, il y a tellement de choses à faire évoluer dans cette équipe de la Juve et que tu ne peux pas réclamer que la Juve, au bout de deux mois, joue comme le Bologne au bout d'une saison et demie. Parce qu'aussi, je me souviens que le Bologne du début d'aventure de Thiago Motta, c'était vraiment pas le Bologne de fin d'exercice de Thiago Motta qui régalait tout le monde aussi au niveau du jeu. Il a fallu du temps aussi à des joueurs de Bologne pour comprendre ce que voulait mettre en place Thiago Motta.
Elvin, il y a beaucoup d'attentes à Turin sur la qualité du jeu, sur la philosophie de jeu. Il y avait cette exaspération là autour d'Allegri dont parlait Johan aussi.
L'objectif, oui, c'était de passer à autre chose d'un point de vue de la philosophie, de la mentalité. Je suis totalement d'accord sur le fait que tout a changé en fait. Côté Juve, on démarre sur quelque chose de totalement nouveau, donc penser que tout sera parfait en deux mois, c'est un petit peu utopique. Quand on dit tout change, c'est dans la mentalité, c'est dans la manière dont le staff prépare des choses, parce que malgré tout, il y a eu un gros mercato côté Juve avec beaucoup de nouveaux joueurs, mais il y a encore des joueurs qui étaient là sous Allegri, donc il y qu'il y a toute une manière de travailler, d'approche des matchs à retravailler. Et moi, je suis très serein là-dessus parce qu'en deux mois, pour le moment, j'ai vu vraiment du changement. On voit une Juve jouer, une Juve qui veut dominer l'adversaire plutôt qu'être dominé.
Parlons justement des changements opérés dans l'effectif parce que c'est évidemment primordial pour insuffler un nouvel état d'esprit et une nouvelle philosophie de jeu. Johan, quelle a été l'idée directrice de l'été dernier en termes de mercato pour Thiago Motta et les dirigeants de la Juventus?
Alors, ce qui est toujours bien quand un entraîneur parle de mercato, c'est qu'on se rend compte qu'il a tout fait en accord avec sa direction. Et ça, c'est évidemment très bien. Ça veut dire à la fois que l'entraîneur est suivi, que les dirigeants croient en ce projet et savent très bien que pour développer ce projet, il faut aussi des joueurs qui correspondent aux idées de Thiago Motta. Et l'autre chose, ça veut dire que Thiago Motta va travailler avec des joueurs qu'il voulait avoir dans son vestiaire. Donc ça, c'est très important. Et l'axe majeur a été mis cet été autour. Alors, il y a plusieurs points qui ont été retouchés, hein, mais l'axe majeur, ça a vraiment été de changer le milieu de terrain. Et en tout cas, alors changer en partie, et en tout cas lui donner beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus de qualité technique. Et en ce sens, il y a trois recrues majeures au milieu de terrain du côté de la Juve. C'est les plus gros investissements cette saison. Si vous regardez, alors c'est toujours, il y a des transferts échelonnés aussi où c'est des prêts avec option ou avec obligation. Donc ça veut dire que la dépense sur cet été n'était pas la plus importante. Mais quand vous regardez les trois recrues payés rubis sur ongles les plus chers cet été, c'est trois milieux de terrain. C'est Kopp-Meiners, Douglas Lewis et Thuram.
Et quand 55, on fait 50 et 20 millions.
Voilà, donc on est à un peu plus de 120 millions d'euros hors bonus sur ces trois recrues-là. Ça montre bien que l'idée de Thiago Motta, c'était vraiment de donner beaucoup plus de qualité et beaucoup plus de profondeur aussi à son milieu de terrain. Ce que ça veut dire aussi, c'est que quand tu dépenses autant d'argent pour ton milieu de terrain, tu n'as pas en un seul été la possibilité de tout changer comme tu voudrais. On sait très bien que le cycle, il va durer 3 ans. En tout cas, au bout de 3 ans, il y aura un vrai premier point qui sera fait où on estime que la Juve doit être en capacité de rejouer le titre chaque saison et d'être beaucoup plus, on verra comment ça va se passer cette saison, mais en tout cas beaucoup plus présente sur la scène européenne. Mais il faudra d'autres joueurs. Et là, le reste du mercato, il est quand même ambitieux parce que tu as été chercher un Nico Gonzalez, tu as changé de gardien avec Di Gregorio, tu as pris un Pierre Kaloulou, un Conseil Sao aussi sur les côtés. Il m'en manque un, je crois que c'est Cabal qui doit me manquer en tant que latéral. Donc tu as quand même t'as quasiment une équipe qui est arrivée. Hein. Tu as quasiment t'as 9, 10, 11 joueurs qui sont arrivés. Mais ce n'est pas encore suffisant. Mais ce qui est clair, c'est que Thiago Motta, et on le voyait à Bologne, le milieu de terrain, c'est le rouage essentiel de son jeu. C'est ceux qui prennent les décisions importantes sur quand on calme le jeu, le tempo à donner, le rythme à donner, quand il faut verticaliser, quand il faut faire tourner le ballon. Face au bloc bas, ils ont un rôle très important parce qu'il faut conserver le ballon, mais aussi très bien l'utiliser et trouver les attaquants d'une bonne manière. On y reviendra avec Kelvin parce que ce n'est pas encore le cas, je trouve, actuellement. Mais voilà, ce qui a été très travaillé cet été, c'était comment donner de l'élan à ce groupe-là en améliorant à la fois la qualité et la quantité de son milieu de terrain.
Avec les départs de gros salaires, de joueurs qui avaient passé beaucoup de temps au club, comme Rabiot, comme Chiesa, comme Alexandro, comme Chesney. Donc ça, ce sont des départs importants. Elvin, toi, ton regard, est-ce que t'es satisfait? T'es content des recrues pour l'instant?
Le mercato, il a totalement été fait en accord entre Motta et la direction, et ça se voit. Donc de ce point de vue-là, c'est important. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit. En revanche, il est vrai qu'il y a quand même des limites, et c'est normal, parce qu'en un mercato, tu ne peux pas tout résoudre. Les limites, elles sont où? Elles sont où notamment sur ce poste de numéro 9, avec la blessure de Milik. Alors certes, c'était imprévisible, mais aujourd'hui, Dusan Vlahovic n'a aucune concurrence, aucun remplaçant, et on le voit, il joue. Et surtout sur les côtés. Dans le système de Thiago Motta, ça me semble très léger, les ailiers dans ce fameux 4-2-3-1 où tu as seulement pour le moment Ilgits, Nico Gonzalez ou un Concesao, parce que le reste ça reste très très jeune, et on le voit face à Lille, les sorties de banc c'était très léger. Donc il y a beaucoup de limites encore, il faudra les résoudre lors des prochains mercato et pourquoi pas dès cet hiver en ayant quelques opportunités, mais en tout cas on ne peut pas reprocher à la direction de la Juve et à Thiago Motta d'avoir la volonté de repartir avec un nouveau cycle et avec des nouvelles idées.
Je parlais des gros salaires qui sont partis, Johan, mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'on pensait que Thiago Motta allait s'appuyer sur des jeunes issus du centre de formation de la Juve. C'est pas le cas pour tous, puisqu'ils en ont vendu beaucoup, et bien vendu d'ailleurs. Hein.
Ouais, alors il le fait quand même, puisque on a un Savon, un Bangoula qui sont arrivés dès cet été en équipe première et qui ont du temps de jeu, et ça c'est important aussi, mais c'est ce que disait Elvin, sur les côtés, Bangoula a aussi eu du temps de jeu parce que c'est un peu léger en termes de quantité, de qualité, je sais pas, parce qu'il y a des bons joueurs quand même, et Nico Gonzalez en plus s'est blessé, et on sait qu'il a un peu une tendance à passer du temps à l'infirmerie parce qu'il a un jeu très particulier. Et c'est vrai que Bangoula a eu du temps de jeu. Mais oui, mais de toute façon, c'était obligatoire. À partir du moment où tu avais besoin d'argent pour recruter les joueurs que Thiago Motta voulait, tu savais très bien qu'il fallait le financer. Un des axes aussi de la Juve, sur ce cycle de 3 ans, c'est de ne plus faire des recapitalisations boursières tous les 18 mois. Il faut quand même rappeler que sur les... Alors, ça doit remonter à 4 saisons et demie. Ils ont fait quasiment 1 milliard de recapitalisation boursière, le propriétaire de la Juve, le groupe Exor. C'est pas possible, en fait, de continuer comme ça. Ils le font, ils sont attachés au club, il y a zéro problème là-dessus. Mais juste, ils voudraient aussi qu'en modèle de club, et on le voit en Italie, il y en a qui commencent à y arriver, avoir un modèle qui est autosuffisant. Alors, on ne va pas y arriver du jour au lendemain, mais il y a des joueurs, effectivement, de cette next-gen qui ont été utilisés pour financer le mercato. Donc, c'est les Huizen, et je trouve ça... Moi, c'est même pas saoulé. Tout le monde s'attache à saouler sur les départs. Moi, je trouve que Dean Huizen avait des qualités pour jouer avec Thiago Motta, mais il fallait financer le mercato. Donc, Dean Huizen, Ealing Junior, Barrenechea, Soulé, Caio George. Et ils sont tous partis parce que tu as dépensé 120 millions d'euros pour 3 milieux de terrain, sans compter les autres arrivés. Il fallait les financer.
Ouais, et tu as récupéré en échange autour de 60-70 millions d'euros. Et effectivement, c'était important pour les finances de la Juve. D'un point de vue plus tactique, Elvin, quels sont les préceptes que tente de mettre en place Thiago Motta avec cette équipe-là et qu'est-ce que tu retiens de l'aspect tactique des rencontres de la Juve cette saison?
Alors officiellement, c'est une équipe qui joue en 4-2-3-1, mais vraiment ce qui marque et ce qui avait marqué déjà le Bologne de Thiago Motta, c'est des joueurs constamment en mouvement. C'est-à-dire que le système de jeu qu'on peut finalement, le 4-2-3-1, ne veut rien dire. La principale caractéristique, c'est que Thiago Motta veut avoir le ballon. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est très rare cette saison, il n'y a quasiment jamais eu un match où la Juve n'a pas eu plus le ballon que l'adversaire. Donc déjà, comme je le disais tout à l'heure, dominer l'adversaire. Ensuite, l'objectif, c'est de faire circuler rapidement le ballon. C'est plus ou moins bien fait. Pour le moment, il y a encore beaucoup de choses à revoir. Donc avoir le ballon, le faire circuler rapidement et chercher rapidement la profondeur quand c'est possible. Donc on voit tout de suite une mentalité offensive avec une volonté de mettre en difficulté l'adversaire. Comme je le répète, on ne peut pas nier que pour le moment, en 2 mois, il n'y a pas eu des choses qui ont déjà été visibles.
Et l'un des préceptes également, Johan, c'est le turnover. Il n'hésite pas à changer les joueurs d'un match à l'autre. Il l'a encore dit avant la rencontre face à Lille en Ligue des Champions. C'est ma philosophie, ça se passera toujours comme ça.
Ouais, ce qui lui est parfois reproché d'ailleurs, et pas que par la presse, par des supporters turinois aussi, avec qui j'échange régulièrement, c'est le fait de beaucoup faire tourner et parfois des changements qui... aux yeux de certains, on va le dire comme ça, sont assez incompréhensibles.
Lesquels, par exemple?
Par exemple, les changements à Lille. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris les changements à Lille, le fait de sortir Dusan Vlahović. Alors, c'est vrai que Vlahović, il joue tous les matchs et c'est compliqué, comme le disait Elvin. Son remplaçant naturel, Milik, est blessé. Et là, tu sais très bien qu'avant décembre, ça sera toujours comme ça. Tu sais même pas si... Parce qu'avec Milik, c'est compliqué, hein, la récupération de blessures, tu ne sais même pas si ça sera avant le mois de janvier, donc avant une potentielle recrue ou trouver un système pour faire venir quelqu'un, parce que Dusan Vlahović jouait tous les 3 jours, il ne pourra pas faire ça jusqu'au mois de janvier. Enfin, il est bien obligé, mais il ne peut pas le faire 90 minutes. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette contrainte-là pour Thiago Motta de se dire, oui, c'est peut-être... ça peut paraître dur ou pour certains incompréhensible de sortir Vlahović, mais dites-vous bien que si Vlahović se blesse parce qu'il enchaîne les matchs de 90 minutes, derrière, il n'y a personne. Enfin, quand je dis il n'y a personne, t'es obligé d'adapter un joueur. Donc, ça, il avait essayé de le faire avec Nico Gonzalez. On sait qu'il peut le faire. Ça peut être Yildiz, ça peut être Wea. On a eu plusieurs solutions tentées. Il n'y en a aucune. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Elvin, mais moi, qui m'a particulièrement séduit. Mais parce que ce n'est pas leur position et c'est comme ça. Donc, ce turnover, il frustre un peu parfois, mais dites-vous bien aussi qu'il y a 6 milieux de terrain, donc c'est normal que tout le monde joue un peu. Il y a 6 milieux de terrain en plus de qualité. que en fonction des adversaires, bah, tu peux mettre deux playmakers type Locatelli Fagioli, ou tu choisis un mec un peu plus costaud si tu as un peu peur des transitions ou tu as besoin d'un peu plus de projection, ça sera un McKennie par exemple. Cop Miners, moi, c'est un débat qu'on peut avoir avec Kelvin. Cop Miners, évidemment, à l'Atalanta, il a brillé. Alors d'abord dans un poste de double pivot, ensuite un poste un peu plus haut derrière l'attaquant. Et c'est vrai que Thiago Motta semble le voir à ce poste-là lui aussi, parce qu'il a une capacité, comment on dit, balistique en Italie, de pouvoir marquer, de d'être un bon passeur avec une bonne vision du jeu. Moi, Cop Miners, j'aimerais bien le voir au milieu de terrain. J'aimerais bien le voir au milieu de terrain parce que je note quand même que quand la Juve subit un pressing assez intense, on l'a vu contre notamment Stuttgart en Ligue des Champions, mais ce n'est pas la seule équipe qui a été capable de le faire, la Juve a beaucoup de mal à élaborer le jeu, la fameuse construction de l'arrière et à sortir du pressing. Parce qu'il y a des joueurs qui sont un peu plus en difficulté techniquement, alors que Cop Miners, il a le gabarit, il est grand, il est costaud, il est large, il peut jouer de l'épaule dans les sorties de balles. Il a la qualité technique, jeu court, jeu long, orientation du corps, orientation du jeu, jeu latéral, jeu vertical, il sait tout faire. Il a la vista, il a l'habitude, il a travaillé comme ça aussi aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il n'était pas numéro 10, il était milieu de terrain. Donc j'aimerais bien le voir à ce poste-là, je pense que ça aiderait beaucoup ce qu'on appelle la manœuvre, c'est-à-dire la construction du jeu d'un petit peu plus bas. Donc oui, il y a du turnover, ok, très bien. Regardez ce qui se passe en Europe, hein. Des entraîneurs qui jouent toujours avec le même 11, ça n'existe plus. Donc moi je veux bien qu'on reproche ça à Thiago Motta, mais il faut regarder que tout le monde fait pareil. Il y a de plus en plus de matchs, t'as aussi des vestiaires à gérer, t'as fait venir des joueurs, et il faut les faire jouer.
Elvin, ton regard sur l'absence de doublure de Vlahovic, sur le positionnement de Cop Miners?
Mais juste pour rejoindre, il y a ce système de méritocratie qui est extrêmement important, dont Thiago s'appuie énormément, il le répète, et c'est vrai que c'est une nouveauté à la Juve, parce que lors des dernières saisons, ceux qui jouaient mal jouaient toujours, donc ça ne va pas, surtout dans un grand club comme celui-ci. Pour Cop, c'est vrai que pour le moment, on le voit, il manque voilà, ce fameux but, ces fameux passes décisives, donc la statistique pure et dure. Mais quand j'écoutais la conférence de presse d'après-match face à l'Udinese le week-end dernier, on lui demande s'il y a un joueur que tu ne peux pas enlever dans cette équipe. Lui, il dit « Cop, je n'arrive pas à l'enlever parce qu'il est trop important dans cette équipe ». C'est vrai que c'est un joueur, si techniquement parlant, il est au-dessus. Dès qu'il touche le ballon, il est capable de faire quelque chose que peu de joueurs savent faire. Maintenant, je suis totalement d'accord, il faut savoir l'intégrer. D'une meilleure manière, faut le voir un peu plus présent au milieu terrain, pourquoi pas lui donner plus de champ et donc le mettre un peu plus bas, parce qu'on le voit dans cette position numéro 10, surtout quand c'est des blocs bas, Cop a énormément de mal, et malheureusement cette saison la Juve joue beaucoup des blocs bas, donc il faut tenter de trouver une solution, parce que Cop est beaucoup trop important pour cette Juve-là. Pour la position de doublure de Dusan Vlahovic, c'est une question de malchance, barre de mauvaise programmation. Malchance parce que personne ne pouvait imaginer que Milik allait se blesser et louper toute la première partie de saison. Mauvaise programmation parce que c'était prévisible qu'il fallait chercher quelque chose d'autre, apporter quelque chose d'autre, et que Dusan Vlahovic ne pouvait pas jouer toute la saison. Fort heureusement pour le moment pour Thiago, Dusan Vlahovic a une continuité physique assez impressionnante. Il enchaîne. Je crois qu'il a battu le record de Carlos Tevez au nombre de matchs consécutifs joués pour un numéro 9 à la Juve. Donc c'est un problème qu'il faut régler absolument cet hiver, parce que si tu veux jouer le Scudetto, si tu veux jouer quelque chose d'intéressant en Europe, tu ne peux pas jouer qu'avec un seul attaquant.
Il faut même d'ailleurs, deux Elvin, joueurs. Ouais, vas-y, je t'en prie.
Non, juste un truc sur Cop Miners, parce que ça peut avoir une réaction en chaîne, c'est-à-dire si tu mets Cop Miners un peu plus bas, moi j'aimerais le voir à ce poste-là, ça libérerait aussi l'espace de 10 pour Yildiz, parce que c'est vrai que Je comprends ce que fait Thiago Motta et qu'ils disent. C'est aussi une question de profondeur de banc. Aujourd'hui, à gauche, t'es assez limité. Mais pour moi, je ne vais pas dire que c'est un peu gâché, ils disent, mais en tout cas, ses qualités naturelles, notamment contre les blocs bas, s'exprimeraient peut-être mieux dans justement la densité. Il a des qualités techniques qui permettent de jouer dans la densité. La densité, elle se trouve souvent dans l'axe du terrain. C'est vrai que moi, je ne sais pas ce qu'en pense Elvin, mais j'aimerais bien voir Yildiz. Donc, Cop Miners au milieu de terrain, Yildiz en 10. Après, à gauche, effectivement, il faut peut-être un peu bricoler. Il faut peut-être, sur certains matchs, même mettre un Cabal, par exemple, un peu plus haut, avec un autre latéral derrière lui. Mbangula, il peut jouer à ce poste-là. Peut-être que ça bricole différemment. Mais dans la densité, dans les blocs bas, où la Juve a beaucoup de mal, où Cop Miners a un peu plus de mal, moi, j'aimerais voir la classe et l'habileté technique de Yildiz.
Elvin.
Bah, en fait, selon moi, c'est tout est un problème de doublure, parce que je suis d'accord. Ouais. On le voit, Elditz, il est un petit peu en difficulté à gauche, là, planqué à gauche face à un bloc bas, il n'arrive pas à faire la différence. Il lui faut de l'espace. Et comme par hasard, il te met un doublé face à l'Inter lorsqu'il a 40 mètres devant lui. Face au PSV, il te sort un match fou parce qu'il a 40 mètres devant lui. Donc, il faut réussir pour Thiago de mettre dans les meilleures dispositions Elditz. Moi, je pense que cette position numéro 10, il ne l'aura pas. Pour une question de doublure à gauche, il préfère mettre le Turc à gauche. Maintenant, en position numéro 10, pour le moment, j'ai l'impression que celui qui a vraiment convaincu, et ce n'est pas vraiment une surprise, puisque c'est vraiment une mezzala d'insertion, c'est l'un des joueurs les plus impressionnants lorsqu'il s'insère au milieu, c'est McKennie, qui semble être le joueur le plus à l'aise dans cette position, parce que ce joueur a une caractéristique folle, c'est dès qu'il rentre dans la surface, il apporte du danger. Donc à la limite, si tu mets Kopp un peu plus bas, tu mettrais l'Américain en position numéro 10 et tu garderais Elditz à gauche. Mais je suis globalement d'accord avec toi, Elditz aurait largement plus de facilité dans cette position de tréquartiste de derrière Vlahovic.
Alors il nous reste 2 minutes pour parler de l'actualité qui va vite arriver, c'est le mercato d'hiver. On l'a dit, la Juve a besoin d'un attaquant peut-être derrière Vlahovic, mais aussi d'un défenseur central, Johan.
Oui, c'est une vraie réflexion parce que... Alors aujourd'hui ils sont 3 avec un joueur qui est un peu en perdition qui est Danilo, qui était déjà limite défensivement dans une défense à 3 et qui l'est encore plus parce que plus exposé dans une défense à 4 sous Thiago Motta. C'est vrai que
on parle de l'axe de la défense. Hein,
avec... L'axe de la défense évidemment, Bremer s'est blessé et ça c'est la grosse huile parce que Bremer, on peut le tourner dans tous les sens selon les préférences, les goûts de chacun. Pour moi c'est le meilleur défenseur en Serie A, c'est celui qui t'apporte une sécurité, un calme pour les autres autour parce qu'ils savent que lui, il est agressif, parce qu'ils savent qu'il est dur sur l'homme, qu'il anticipe bien, qu'il est dur à contourner, que même les gros gabarits, il est capable de les prendre. Il peut gérer aussi un petit peu la profondeur. Donc, ça a été une vraie tuile, la blessure de Bremer. Donc, il te reste Kalulu Gatti avec Danilo, donc, qui joue parce que même chose que Vlahovic, hein, Kalulu et Gatti, ils ne pourront pas faire toute la saison. Enfin, ils ne pourront pas aller jusqu'en janvier en jouant tous les 3 jours non plus. Hein. Donc... Oui, il faudra prendre quelqu'un qui a un profil un peu particulier, je pense. J'aimerais bien une sorte de défenseur-relanceur, un peu à l'aise avec le ballon, parce que c'est ce que veut aussi Thiago Motta. Alors, on n'aura pas un Calafiori tout de suite, mais il faudra un joueur, parce que Calafiori avait fait vraiment un travail extraordinaire à Bologne avec Thiago Motta. Donc, il faudra effectivement un défenseur. Et juste pour revenir, parce que ça me revient en tête là à l'instant, quand on parlait un peu de quelques difficultés de la Juve et de certaines difficultés de la Juve et de ce début de saison et de certains matchs qui n'étaient pas aboutis et donc aussi de tous les joueurs qu'il fallait intégrer, regardez la moyenne d'âge de l'équipe à Lille, c'est la moyenne d'âge la plus jeune de l'histoire de la Juve en Coupe d'Europe, 24 ans et 195 jours. Je regardais par comparaison hier de mémoire parce que je l'ai vu hier soir, l'Inter c'est 28 ans et 200 jours.
Ouais, voilà, il y a 4 ou 5 ans d'écart, ouais.
Voilà, donc tu peux pas demander la même chose non plus immédiatement à ces mecs-là que à des équipes qui sont rodées depuis un certain temps ensemble, ce qui peut expliquer aussi certaines phases où c'est un peu compliqué, où la Juve fonctionne un peu par montagne russe. C'est-à-dire que tu as 2 très bons matchs et ensuite on a deux pas bons. Tu en as encore 2 bons, 2 pas bons. Mais ça, c'est logique dans tous les cycles, quand tu parles avec les entraîneurs, quand tu changes beaucoup de choses, il y a des matchs où tu as l'impression qu'ils ont tout compris ou tout réussi. Et t'as des matchs où tu dis, ah ouais, on voit qu'on a encore du boulot, qu'ils n'ont pas tout assimilé. C'est un peu comme ça.
On aura le temps évidemment de se pencher sur la suite de la saison de la Juve. On en reparlera avec toi, Elvin. Merci d'avoir été avec nous dans l'After Italy.
Merci à vous les amis.
Merci Elvin.
Johan, on se retrouve très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires. Et à très vite donc pour un nouvel After Italy. Salut.
RMC After Italy.